Alors, on ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout concerté avec Matthieu. Il a fait sa liturgie dans son coin et moi j'ai fait ma prédication dans mon coin. Mais c'était étonnant parce que j'ai choisi de prêcher sur un psaume pour aborder le thème de la louange. Et c'est marrant aussi parce que le psaume que j'ai choisi fait des références justement à toute cette période qui s'étend entre la sortie d'Égypte et l'arrivée au pays promis. Comme quoi, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui prépare ses cultes à travers nous. Je vous invite donc ce matin à ouvrir vos Bibles dans le psaume 111. Et si vous avez des Bibles ou des portables, je vous encourage vraiment à les ouvrir parce que je vais essayer de vous montrer un peu la beauté de ce psaume et sa structure. Le 111. Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. Et l'Éternel fait grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont la vérité et le droit. Toutes ces ordonnances sont dignes de foi. À toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a du bon sens, pardon, ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Donc moi aussi, j'avais prévu de dire que ce matin, on va travailler sur la louange pour faire écho avec ce qu'on fait dans les groupes de maison. Louange ou adoration a été le premier type de prière qu'on a étudié ensemble dans les livres. Donc j'utilise le psaume 111 ce matin pour nous accompagner dans cette réflexion. D'abord, un commentaire. En creusant ce psaume, j'ai vu que c'était un joli petit bijou de littérature. Sa rédaction a sans doute pris du temps à l'auteur, de la réflexion, de la culture, de l'expérience. Bon, le soleil étant ce qu'il est, j'avais prévu de vous monter un petit PDF, mais on ne va rien voir. Je l'enverrai peut-être dans la lettre de nouvelles pour ceux qui veulent. C'est un psaume d'abord alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'auteur a écrit toutes les lettres de l'alphabet hébreu et qu'il a écrit son psaume en commençant plusieurs propositions par les lettres. Et on retrouve ainsi un ordre bien précis, une sorte de forme de poésie. Ensuite, ce psaume a été structuré pour mettre en avant le message du chanteur dans ce qu'on appelle un chiasme. Donc c'est une structure où le haut et le bas, le début et la fin se font écho, et puis on avance comme ça, et puis on avance comme ça, pour mettre en avant en fait le message central du psaume. J'essaierai de vous le montrer. Et enfin, toutes les choses qu'il y a dans la trame de fond sont liées au récit national, identitaire du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, le don de la loi, les 40 années dans le désert, l'entrée dans le pays promis. Promis, j'ai pas fait exprès, Matthieu. Le sage admire Dieu qui se révèle par toutes ces choses et la louange lui vient aux lèvres. Le message est simple. Il faut louer l'Éternel. D'ailleurs, le psaume s'ouvre en disant « Louez le Seigneur » et se termine par « Sa louange subsiste à jamais ». N'est-ce pas ? Là, c'est le chiasme déjà, hein ? Le miroir. Cette première phrase et dernière phrase encadrent le psaume. Commençons à louer Yahweh, et lorsque nous terminerons notre louange, lorsque nous terminerons ce psaume, nous savons que, que la louange ne s'arrête pas avec notre silence. Si nous, nous nous taisons, d'autres ailleurs, quelque part dans le monde, commencent déjà à louer Dieu. Et cela ne cesse jamais. Et si tous les adorateurs de Dieu se taisaient ou étaient mis à mort, les pierres elles-mêmes se mettraient à louer Dieu. Et juste après l'ouverture, ou juste avant la fermeture, nous lisons l'auteur écrire ce qu'il convient de faire. Ainsi, au verset 1, on peut lire « Louez Dieu dans le conseil des saints et dans la grande assemblée. » Et tout à la fin, au verset 10, on peut lire « La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. » Louer Dieu dans la sainte assemblée, c'est louer Dieu facilement. C'est louer Dieu avec ceux qui partagent ma croyance. Pour l'auteur, c'est louer Dieu avec ceux qui vivent la même foi que lui. C'est facile, c'est bon de louer Dieu avec ceux qui aiment le Seigneur. Et puis il y a les autres autour de lui, qui peut-être vont moins au temple ou à la synagogue, les autres qui ont une foi mêlée avec d'autres choses, ou les autres qui sont ouvertement rebelles à Yahweh. Pour l'auteur, c'est plus difficile d'oser ouvrir la bouche et d'oser louer Dieu face à ces gens-là. Mais lui dit qu'il veut louer Dieu de tout son cœur, ici et là, entre croyants zélés et avec les autres, qui le sont moins ou qui le sont pas. Et à la fin, craindre Dieu, que c'est le début de la sagesse. Craindre Dieu, on ne dit plus vraiment craindre Dieu aujourd'hui. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir une profonde envie de lui plaire. Profonde envie de lui plaire. Une envie de lui plaire qui naît d'un amour, d'une reconnaissance, d'un respect, d'humilité, d'adoration, un peu tout ça mélangé, qui nous conduit à vouloir lui plaire, lui ressembler, l'imiter. Et l'auteur cherche à dire que tout le chemin de la sagesse commence par là. Commence par là. Ceux qui le cherchent sont pleins de bon sens, nous dit-il. Et nous retrouvons ici un thème central des proverbes, n'est-ce pas ? Je descends encore un échelon dans le chiasme, ou remonte selon la fin. L'auteur évoque en miroir les œuvres de Dieu et la loi de Dieu. Je relis les deux passages. Grandes sont les œuvres du Seigneur, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Éclatante et magnifique est son action et sa justice subsiste à jamais. Ça, c'est pour les œuvres. Et un peu plus bas, pour la loi de Dieu. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité, sûres et à jamais inébranlables. Sont toutes ses ordonnances, faites avec loyauté et droiture. La libération, il a envoyé à son peuple. Souvenez-vous qu'il faut avoir le grand récit national des Hébreux dans la tête. Ici, nous avons les grandes œuvres de Dieu qui ont permis la sortie d'Égypte. Les plaies, la Pâque, la mer Rouge, la nuée, la colonne de feu, le rocher qui donna de l'eau, les cailles qui tombèrent dans le camp. Et puis, on a aussi le don de la loi, celui au Sinaï, mais aussi le don de la loi répété lors du Deutéronome, alors que le peuple, après son périple de 40 années dans le désert, revient aux portes du pays promis. L'auteur nous dit que les œuvres de Dieu sont éclatantes et sont à méditer. Le texte parle de « elles sont recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir ». Le mot « recherché » ici ne veut pas forcément dire uniquement qu'on a envie de les trouver pour les prendre, mais aussi qu'on a envie de les sonder, de les méditer, de les contempler. Ceux qui aiment Dieu les voit et les sonde. Gilles nous a parlé de la foi. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas voir les œuvres de Dieu. Ce n'est pas que Dieu se fâche et dise, non, toi, tu ne le verras pas. C'est que les choses qui se passent dans sa vie et qui viennent de Dieu, il ne les attribuera pas à Dieu. Il les attribuera aux circonstances, au hasard, à un coup de bol, ou peut-être à un mystère. Mais celui qui a la foi verra dans telle circonstance, dans tel frère ou telle sœur qui lui adresse la parole, dans tel signe, l'œuvre de Dieu qui lui parle. Et puis il se plaira aussi à contempler les œuvres de Dieu dans le passé, à chercher à comprendre pourquoi la mer Rouge, pourquoi les 10 plaies d'Égypte, pourquoi ces grandes œuvres. Mais le peuple est oublié-lieu. Alors au verset 4, Dieu a fixé un souvenir, un mémorial. Les mémoriaux, ce sont les fêtes juives, pour revivre, commémorer ces actes merveilleux afin qu'on ne les oublie pas. Car nous dit l'auteur, Dieu est compatissant, clément. Ainsi Israël avait beaucoup de fêtes pour célébrer les œuvres de Dieu. Ils en rajoutaient au fur et à mesure que de grandes œuvres de Dieu étaient accomplies. Et d'autre part, l'auteur célèbre les lois, les ordonnances droites et sûres et inébranlables de Dieu. Elles sont à vivre. Le peuple va entrer dans un pays, le pays promis de Canaan, rempli d'autres peuples, avec d'autres coutumes, qui adorent d'autres dieux, les Baals, les Asherthés. Mais ces faux dieux et déesses ne rendent pas libres. La loi de Dieu, elle, libère le peuple. Ceux qui se sont révoltés contre Dieu, la première fois que le peuple est arrivé dans le pays promis, ne sont pas rentrés. Mais ceux qui sont restés fidèles sont entrés dans le pays promis. D'ailleurs, cette alliance qu'il garde fidèlement, Dieu, malgré le peuple, c'est lui qui l'a instituée. Et ainsi l'auteur nous le rappelle au verset 9, que c'est Dieu qui a institué son alliance de manière ferme. Une loi à vivre et une alliance pour pouvoir la vivre malgré notre faute. On arrive aux fins du chiasme, au centre du psaume. Après l'ouverture, la fermeture, après ce qu'il convient de faire, la louange et la crainte, après les œuvres de Dieu méditées et sa loi qui libère, nous arrivons au cœur du psaume, c'est l'alliance. Au verset 5 et 6, l'auteur dit ceci. « Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Il se souviendra de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant le patrimoine des nations. » Je crois que l'auteur évoque les 40 années dans le désert durant lesquelles Dieu a donné la manne au peuple sans jamais faillir, malgré les révoltes des Hébreux. Et puis lorsque tous les rebelles qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays sont morts, dans le désert, non pas de faim ou de soif, mais sont morts de vieillesse. Dieu a fait entrer la génération suivante dans le pays promis, conformément à l'Alliance. Ce pays était peuplé de tribus, et Dieu a donné la victoire à son peuple pour qu'il en hérite et l'habite. Un Dieu juste et fidèle, il a puni le peuple, mais sans l'abandonner. Il l'a laissé refuser son alliance, mais sans abandonner son projet ou les laisser tomber à cause de leur infidélité. Mais il est resté fidèle à ce qu'il avait promis à Abraham, le père de tout ce peuple. Voilà le psaume bien construit. Au final, nous voyons que l'auteur veut encourager la foi de ses lecteurs en appelant à louer Dieu dans la crainte. Mais pour nous encourager à louer Dieu, il nous rappelle trois choses. On pourrait dire, il rappelle ce que Dieu a fait, il rappelle ce que Dieu a dit, et il rappelle ce que Dieu est. Eh bien, c'est ça, louer. Louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu et de ses œuvres, que ce soit sa loi, ses actions, sa façon d'être en relation avec nous. Je dis dire du bien, mais attention, sans hypocrisie. Vous n'avez pas le droit de vous forcer à dire du bien alors que vous pensez du mal. Louer Dieu, souvent pour nous, c'est lié à la reconnaissance. Et c'était rigolo parce que Matthieu nous a dit on va avoir un temps de louange et vous êtes tous dit merci. Louer Dieu pour nous, c'est lié à la reconnaissance. D'accord ? Si Dieu est super pour nous, s'il nous bénit, il faut le louer. Alors tout de suite, louer devient plus compliqué lorsqu'on ne se sent pas béni. Mais qui a dit que louer était un élan de reconnaissance ? Je comprends que ce soit plus facilement le cas ou plus naturellement le cas. Mais louer Dieu, ce n'est pas chercher à lui faire plaisir avec des belles paroles. Louer Dieu, c'est dire la vérité de ce que l'on voit, de ce que l'on sait et de ce que l'on croit. Cela ne dépend pas de nos émotions, mais cela peut influencer nos émotions. Cela ne dépend pas de ce que nous traversons, mais cela peut influencer la manière dont on vit ce que nous traversons. Si vous venez de gagner au loto, ou si vous traversez un deuil, dans un cas comme dans l'autre, si vous prenez le temps de contempler un coucher de soleil, de regarder un ange jouer dans sa bulle avec ses jouets, ou un chat qui vient se frotter contre la jambe d'un papé sur un banc, vous pouvez voir la beauté des œuvres de Dieu sans que vos circonstances, formidables ou terribles, ne changent ce que vous voyez. C'est beau. Dieu, la création que tu as faite est belle. Alors, dans le deuil, ce sera peut-être un murmure de vérité. Oui, Seigneur, c'est beau. Et peut-être, après la victoire au loto, un cri de joie. T'es trop balèze, Seigneur. Mais dans un cas comme dans un autre, vous aurez loué Dieu. Et peut-être que la louange dans le deuil vous ramènera vers la vie et vous décentrera de votre douleur afin qu'elle ne vous noie pas. Et probablement que votre louange, en brandissant votre ticket de loto gagnant, va vous garder de glisser vers un nombrilisme hédoniste. Ça veut dire se centrer sur soi et sur son petit plaisir. Louer pour ne pas couler trop profond. Louer pour ne pas m'élever trop haut. Louer pour rester les deux pieds sur terre et les yeux fixés vers Dieu. Louer n'est pas un mouvement sentimental. Pour nous les chrétiens, louer, c'est magnétiser à nouveau l'aiguille de ma boussole. Pour être sûr qu'elle indique le nord. Louer, c'est calibrer mon GPS, vérifier la justesse de ma balance, faire la mise à jour de mon logiciel, vérifier mes amers par rapport à ma carte de navigation, voir où j'en suis dans ma foi. Dieu, tu es bon, check. Dieu, tu es juste, check. Dieu, tu es fidèle. Est-ce que je peux dire que Dieu est fidèle ? Est-ce que je crois que Dieu est fidèle ? Ah, je ne sais pas. Ah. Si dans ma louange je bloque, si je bug, je n'arrive pas à dire la vérité de ceci ou dire ce qu'on m'a appris de cela, pas de panique. Je ne suis pas déchu de la grâce pour autant. Simplement, je vois que des choses sont à reprendre, ou alors que des choses ont changé. Peut-être que ma compréhension de Dieu a changé, ou peut-être que c'est moi qui ai changé. Peut-être en bien, en maturité. Peut-être qu'avant, pendant des années, je disais ça facilement, et puis que j'ai vécu un drame, et maintenant, cette chose-là, facile, je... Qu'est-ce qu'elle pèse lourd ? Oui, je veux la dire, mais je veux la dire doucement. Peut-être que je t'ai embarqué dans une façon de penser chrétienne un peu trop facile et qu'en fait, la vérité est plus dure que ça. Ou peut-être que je m'éloigne de Dieu. Peut-être que je me rapproche des pensées du monde aussi. Allez savoir. Peut-être que les circonstances qui m'entourent appuient trop sur mon cœur, ou que les personnes que je fréquente me blessent trop et me font trop de mal. Là encore, la louange peut être thérapeutique. Elle peut m'aider à sonder ma façon de penser, peut-être la réaligner. Mais ne nous forçons pas au-delà d'un certain point. Oui, des efforts peuvent être faits pour faire avancer les choses, mais se mentir à soi-même ou aux autres ou à Dieu n'a jamais aidé qui que ce soit. Vous comprenez que je vous propose une autre piste pour la louange. Avec le psalmiste, nous aussi, apprenons à fonder notre louange. Louons Dieu pour ce qu'il est. Louons Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il dit. Louer Dieu, c'est dire la vérité de Dieu. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es incompréhensible. Tu es mystérieux. Génial, insaisissable, tu es effrayant, immense. Nous louons Dieu en louant ses œuvres. La terre est magnifique, le ciel est si haut, la mer si profonde. Ta nature, Seigneur, si variée. Nous louons Dieu dans sa loi, dans sa sagesse, sa pensée. Seigneur, ta fidélité est inébranlable. Seigneur, ta présence est vraiment un guide pour moi. Et voyez, louer Dieu, c'est pas dire merci. Dire merci, c'est l'action de grâce. Parce que dire merci, c'est par rapport à moi. Par rapport à ce qu'il est pour moi. Louer Dieu, c'est que lui. Que lui. Et puis que lui. Tu es. Tu as fait. Ton œuvre. Ta parole. Et je la décris. Je la qualifie. Je la contemple. Et en faisant ça, je mets Dieu au centre. C'est pas toujours facile. On croit que louer Dieu, c'est spontané, n'est-ce pas ? On a notre culture évangélique qui nous a appris que la louange, l'adoration, la vraie, c'est spontané et à haute voix. Mais le gars qui a écrit ce psaume, ou la fille, autant que je sache, a passé combien de temps ? Il a écrit ses lettres, là, en alphabet hébreu. Il a cherché pour que chaque phrase commence par la bonne lettre. Il a fait son petit truc en symétrique, là. Vous croyez que ça lui a pris combien de temps ? Sa louange spontanée. Hein ?
Et c'est ça nos modèles. C'est avec ça qu'on écrit nos cantiques, non? Alors votre louange à vous aussi, elle peut être réfléchie, travaillée, face à une feuille blanche. Seigneur, qu'est-ce que tu es pour moi? Puis d'aller voir, d'aller chercher au fond de soi, écrire des mots, écrire des phrases. Peut-être voir ce qui vient facilement et puis questionner ce que notre plume va hésiter à écrire. Tu es mon père. C'est à vous de voir.
Le sol de ce temple est en forme de rectangle. C'est vrai. La promesse de Dieu dure à jamais. C'est vrai. C'est objectif. La nappe est jaune. C'est vrai. Dieu est bon. C'est vrai. C'est pas émotionnel. C'est factuel. C'est dire la vérité. C'est remettre la vérité première de Dieu au centre de ma vie. À partir de là, tout le reste reprend sa place. À partir de là, tout le reste de mes pensées se réorganise autour de ces deux vérités fondamentales, à partir de lesquelles tout part. Dieu est bon et Dieu est puissant. Dieu est bon, Dieu est puissant, tout part de là. Parce que si Dieu n'est pas bon, on est foutu. S'il est puissant mais qu'il n'est pas bon, on est fichu. Mais s'il est bon mais qu'il n'est pas puissant, ben on est fichu aussi. Il a besoin qu'il soit bon et puissant. Alors dire les vérités de Dieu, c'est louer. Tu peux le dire avec joie. Tu es bon. Tu peux le dire avec larmes. Dieu, tu es patient. Je peux le dire pour rallumer une foi qui est blasée en moi. Je peux le dire de plein de façons, avec le cœur habillé, en fête, en deuil, en pyjama ou en short. Le dire parce que c'est vrai va m'aider. Car il est toujours, toujours bon de louer Dieu. Amen.